Et Marie-Pierre est avec nous aujourd'hui. Bonjour Marie-Pierre.
Bonjour Jonathan, bonjour à tous.
Alors, grand retour de la revue de presse et cette semaine, avec vous, on parle des jeunes.
Oui Jonathan, des jeunes pris dans la spirale du narcotrafic. Un drame sans fin, s'interroge Lou Besmont de Seineville dans La Croix de ce lundi. On pourrait le croire, Jonathan, tant l'histoire se répète encore et encore. Et, comme l'écrit notre confrère, on a l'impression d'assister impuissant à une vague blanche submergeant notre pays. Il est urgent de réagir et d'aider les jeunes à dire non au narcotrafic. Oui, mais comment? De quelle manière? Alors, toujours dans La Croix de ce lundi, vous lirez comment, tout à côté de Dijon, la commune de Chenôve a récemment développé un vaste programme de sensibilisation à destination des mineurs et des jeunes majeurs. Il s'agit de mettre en scène des pièces de théâtre basées sur le procès de trafiquants. Et les acteurs, bien sûr, ce sont des élèves. À la manière d'une audience correctionnelle, ils dissèquent la mécanique d'un réseau de narcotrafiquants. Ils essaient d'en déconstruire quelques mythes tenaces. Cependant, plusieurs jeunes manquent régulièrement à l'appel. On ne va pas se mentir, on galère à les accrocher et on met du temps à créer un lien de confiance, conclut le directeur jeunesse de Chenôve. On leur tend la main tout le temps. On se dit qu'un jour, ils la saisiront peut-être.
Comme la saisissent d'autres jeunes en situation de handicap.
Il faut que tu bouges sans cesse le sèche-cheveux, préconise avec douceur Louane à Louis, un jeune de 16 ans. Il est en train d'effectuer son premier brushing. La jeune apprentie en coiffure de 17 ans explique patiemment les rudiments de son métier à cet élève de l'Institut médico-éducatif du Val-Lory. Un institut qui accueille des jeunes de 14 à 20 ans qui présentent une déficience intellectuelle et ou des troubles du spectre autistique. La scène se passe dans le salon de coiffure pédagogique du centre de formation d'apprentis à Saint-Herblain, tout près de Nantes. Et ce, à l'occasion d'une journée de découverte des métiers pour les jeunes handicapés. À la rentrée, une formation unique en France d'assistants beauté, conçue sur mesure pour accueillir des jeunes en situation de handicap, ouvrira à Saint-Herblain. Et pour la suite, eh bien, je vous renvoie à ce joli reportage à découvrir dans La Croix de ce mardi. Et puis, bien loin de là, en Cisjordanie, comme je le lis en une de La Croix de ce jeudi, on parle de l'école confisquée. Sur ces terres occupées, la peur, les violences des colons et de l'armée israélienne, mais aussi l'effondrement économique palestinien, éloignent chaque jour davantage les enfants des salles de classe. Désormais, des élèves désœuvrés traînent sur des chemins poussiéreux. Tous les enfants du monde vont à l'école pour étudier et pour voir leurs amis, sauf nous, souffle Mira, une fillette de 10 ans, première de sa classe de CM.
Au Bénin, des hommes retournent sur les bancs d'une bien surprenante école, Marie-Pierre.
Avant, j'étais un parfait infidèle, un coureur de jupons fameux, avoue Ganyu Kinoubé, père de 6 enfants. J'ai mis fin à ses comportements. Je voulais qu'il y ait une cohérence entre mes paroles et mes actes. Je suis devenu un modèle pour la communauté depuis que j'ai rejoint l'école des maris. Désormais, je suis fidèle à mes deux femmes. Son ami Claude Kéké, père également de 6 enfants, ajoute « Avant, je n'aidais pas mon épouse. Maintenant, j'ai compris que je pouvais me rendre utile. Je fais des courses et je m'occupe des enfants. » Ce ne fut pas une métamorphose facile. Dans notre culture, on dit d'un homme serviable et docile qu'il a été ensorcelé, marabouté. C'est toujours dans La Croix de ce mardi que je découvre l'existence de cette école pour le moins surprenante, l'école des maris. Une école dont le discours dans cette société rurale très patriarcale constitue une petite révolution copernicienne. Petite révolution portée par l'ONG Cœur Bénin et mise en œuvre par des acteurs locaux, des hommes respectés localement pour qu'ils deviennent à leur tour des relais de masculinité positive dans leur communauté.
Et comme en miroir, la Croix Hebdo se penche sur le sort des enfants de féminicides.
Ceux dont la maman a succombé sous les coups d'un mari violent. Chaque année en France, un peu plus d'une centaine d'hommes tuent leur femme ou leur ex-compagne, et bien souvent sous les yeux de leurs enfants. Que deviennent-ils ces enfants après le drame? Quel regard portent-ils sur ce père qui a tué leur mère? De Montauban à Poitiers, en passant par la région parisienne, la Croix-Edo a rencontré quelques-uns de ses enfants. Et les familles également, qui les ont aidés à continuer leur vie. Car, malgré tout cela, les enfants des féminicides arrivent à revivre et à regarder devant. Élevées désormais avec beaucoup d'amour par leur grand-mère, les cinq filles d'Isabelle continuent de grandir avec l'odeur de leur maman, de leur maman, celui de son parfum préféré, celui que les grandes continuent d'acheter dès qu'un flacon est vide, et ce, pour en verser chaque soir quelques gouttes sur le doudou de leur petite sœur. Une lecture éprouvante, je ne vous le cache pas, mais il faut entendre le désir et le besoin de témoigner de Chloé, de Fanny, de Françoise, de Karine et de bien d'autres. Car lire ces lignes, écrit Bruno Bouvet dans son édito, c'est tenter de se tenir aux côtés de ces victimes collatérales. C'est leur manifester notre soutien invisible. C'est derrière l'horreur et la froideur des statistiques, partager une commune humanité. Tout comme, bien loin de là, en Ukraine, auprès de ses compatriotes et des populations bombardées, se tient le père Youri Lazarenko. Dans les colonnes du magazine La Vie, vous lirez le récit de ce résistant de la première heure qui, de la Crimée occupée jusqu'aux portes de Kherson, refusant le nom de héros et ne cachant pas ses larmes, prie, aide et résiste, et prie encore. Il faut prier pour chaque vie sans relâche.